Mathieu Roy, bonjour.
Salut Louis.
Parlons techno un peu et commençons avec Nintendo. Tiens, des nouvelles de Nintendo.
As-tu déjà eu une console Nintendo?
Oui, mais ça fait bien longtemps. J'avais
l'originale?
Là, la petite grise, là, tu sais, avec tu tirais sur des canards, là.
Wow, avec Duck Hunt, bien entendu. Quelle incroyable époque c'était, hein? Et ça, c'était une époque où, on en a déjà parlé, pas de mise à jour, hein? On mettait la cassette dans la boîte, ça marchait. Évidemment, Nintendo a donné un peu le ton à cette espèce de redynamisation du monde du jeu vidéo. Et même s'il y a eu des nouveaux joueurs qui ont dépassé au niveau de la qualité des consoles, Nintendo est encore là et nous propose encore et toujours de nouvelles façons de jouer. Et hier, ben écoute, je parlerai pas d'une éclipse dans le monde techno, mais disons que ça a fait grand bruit. Nintendo a annoncé qu'ils allaient présenter une nouvelle Nintendo Switch. Mais là, attention, là, c'est pas la grande révolution, c'est une amélioration de la console actuelle. Il va avoir un écran OLED qui va offrir des meilleures couleurs, un meilleur contraste, avec un écran de 7 pouces. Donc, la console, elle est portable, mais ce qui est le fun, c'est que elle peut être jouée aussi en mode télévision. Donc, il y a un socle qui permet de déposer l'espèce de tablette sur laquelle on joue et de séparer de cette tablette les deux manettes et de pouvoir jouer sur un téléviseur. Donc, il y a une polyvalence à cette console-là, qui, pour le papa que je suis, qui a peu de temps pour s'installer 2-3 heures devant la télé, un jeu vidéo, ben sur la route ou tu sais durant par exemple des obligations professionnelles, je peux la transporter avec moi.
Là. OK, mais c'est moi où j'ai l'impression que Nintendo, la console, s'adresse peut-être à un public plus jeune.
Tu as tout à fait raison. En fait, c'est intéressant parce que elle est vraiment intergénérationnelle.
Ouais.
C'est une des c'est de moins en moins vrai, remarque, parce que aujourd'hui, les parents sont maintenant des parents qui ont grandi avec des consoles, donc on a des parents gamers, mais souvent ils faisaient le lien entre les parents et l'enfant et même des grands-parents, je dirais, parce que si la Nintendo Wii, qui est une ancienne console de Nintendo, nous a montré quelque chose, c'est que des personnes âgées pouvaient trouver plaisir à jouer notamment à des jeux de quilles parce que il y avait un véritable mouvement, les manettes avaient des capteurs, et donc la Nintendo Switch a suivi un peu cette espèce de mentalité-là, où on nous propose de nouvelles façons de jouer, et évidemment, les jeux, ce sont des jeux familiaux, puis on essaie des choses chez Nintendo, à défaut d'avoir des résolutions de 4K, des machines extrêmement puissantes, comme la PlayStation 5, ou les plus récentes consoles de Nintendo, ou encore des jeux à l'ordinateur, de Microsoft, ou des jeux à l'ordinateur. Nintendo se concentre toujours sur l'expérience et mise, bien sûr, sur des franchises connues, Zelda, Mario Bros, Donkey Kong, Metroid. Donc, on tape sur le même clou. Mais tu sais quoi, ça fonctionne encore.
Ouais.
S'ils sortent un nouveau Mario Kart, m'a sauté là-dessus, même si c'est le 125e. Puis c'est encore des jeux d'auto, de kart avec l'univers de Mario. C'est encore bien le fun. Bref, le 8 octobre, il y aura une console qui va avoir réglé quelques petits irritants de l'ancienne console.
D'accord.
Amélioration pour évolution.
OK. La compagnie, l'industrie du jeu vidéo explore maintenant le monde des costumes. Comment ça?
Oui, je sais pas si t'as vu passer.
Tu vas être obligé de te costumer quand tu vas jouer à ton jeu préféré?
Ben, je pense que c'est une belle façon de se plonger dans l'univers d'un jeu vidéo. Oui. Mais la nouvelle, c'est pas ça. la nouvelle, c'est que le grand costumier de Montréal va ajouter un partenariat vraiment très moderne avec la Guilde du jeu vidéo du Québec, Ubisoft et le Centre de recherche en intelligence numérique. Donc, le grand costumier, c'est cette espèce de grand organisme qui avait notamment toute cette collection de costumes à Radio-Canada.
Ouais.
Souvenez-vous, là, on voulait sauver le costumier de Radio-Canada.
Mm-hmm.
Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est comme, imaginez une base de données, mais ce sont de véritables costumes qu'on peut retrouver là-bas. Et donc, on va utiliser les outils qu'on a en ce moment pour numériser en 3D certains types de costumes, et donc ça va servir pour les artistes 3D, ceux qui doivent utiliser par exemple le numérique dans leur travail, et bien sûr on pense à l'industrie du jeu vidéo, parce que si Ubisoft est partenaire, c'est parce qu'ils voient là très certainement une bonne façon d'aller chercher une expertise, peut-être qu'ils ont pas vraiment, parce que il manque peut-être de ressources, ou peut-être qu'il manque de notions historiques liées aux vêtements dans le jeu vidéo. Et là, on va être capable de numériser à l'aide d'à peu près 250 caméras, appareils photo, les costumes en 3D. Donc, on va numériser, bien sûr, ce à quoi ce qu'ils ont l'air en couleur, mais les caméras sont tellement précises qu'on va être capable d'aller chercher la texture. Et avec les gens qui travaillent au grand costumier, on va pouvoir expliquer à des créateurs de jeux vidéo ben que le vêtement ne bougeait pas de cette façon-là quand viendra le temps de l'animer, ou encore que c'était porté différemment, mais qu'on pouvait le porter de telle ou telle autre façon. Donc, je trouve que c'est une ressource super intéressante, et il y aura aussi très certainement, ça va être utilisé à des fins académiques, pas juste seulement pour les grands studios, mais c'est le fun de voir comment l'industrie du jeu vidéo va chercher de l'expertise dans des métiers ou chez des personnes qui traditionnellement n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, hein, des historiens. Mm-hmm. Moi, j'ai vu chez Ubisoft le département de bruitage, là, un peu comme à l'époque des films muets sur lesquels on ajoutait du bruit, mais des dessinateurs, des scénaristes, c'est tout des nouveaux métiers, ou en fait des anciens métiers qu'on applique à des technologies nouvelles. Mais là, c'est le grand costumier. Je trouve ça vraiment le fun.
Et la compagnie Verizon qui va présenter son nouveau véhicule de secours.
Oui, encore une fois, quand viendra le temps de prêter secours ou d'intervenir dans des endroits où il y aura eu des catastrophes naturelles, que ce soit des tornades, des ouragans, des inondations, du verglas, même peut-être des vagues de chaleur, l'entreprise Verizon, qui est une entreprise de télécommunications, a présenté, je sais pas si tu as déjà googlé, mais si tu connais le F-650, c'est un immense pick-up, une immense camionnette. Ah, et ouais? Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont modifié avec toutes sortes de coupoles, d'antennes, okay, afin d'être capable de déployer très rapidement dans des milieux plutôt hostiles le Wi-Fi, le 5G, des connexions satellites de toutes sortes pour être capable très rapidement de pouvoir coordonner les secours. Le véhicule s'appelle TOR, T-H-O-R, pour Tactical Humanitarian Operation Response.
Et on était bien content que ça donne avec avec Thor, le dieu, là.
Oui, exactement. Et surtout la sortie du film qui sera imminente, le Love and Thunder, je crois. Ouais, mais bref, regarde le véhicule. Honnêtement, là, c'est assez hallucinant. Ah, il y a des drones d'assistance aussi, ouais, qui vont pouvoir être contrôlés à l'aide de ces différents types de connexions-là, que ce soit pour coordonner les pompiers ou les services de sécurité, les secouristes. C'est vraiment une très bonne idée. Je vois très bien des utilisations de ça partout dans le monde, ici au Québec ou encore au Canada, débarquer avec son espèce de véhicule tout-terrain qui assure des connexions sans fil. Très bonne idée, parce que ça devient essentiel pour gagner du temps quand vient le temps d'intervenir.
Monsieur Roy, merci beaucoup. Encore une fois, toujours intéressant. Et on se reparle demain matin. Salut, bye.